VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 7 février 2020. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, libération de l'opposant Luc Malembe, porte-parole de l'AMUKA, accusé d'outrage au président Félix Tshisekedi.
En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a appelé hier à plus de fermeté contre les groupes armés à l'occasion du premier anniversaire de l'accord de paix de Khartoum.
Les États-Unis ont annoncé hier avoir éliminé au Yémen Qassem al-Rimi, chef du groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique.
La Chine est entièrement capable de juguler l'épidémie de coronavirus, assure le président chinois Xi Jinping dans un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump.
Le président Trump, qui hier a qualifié de malhonnête et corrompu ses opposants, 24 heures après avoir été acquitté à son procès en destitution.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, un opposant accusé d'outrage au président Félix Tshisekedi a obtenu sa libération provisoire après 8 jours de détention en Ituri, dans le Nord-Est. Des détails avec Eddie Isango.
Luc Malembe, porte-parole de l'AMUKA dans la province de l'Ituri, a lui-même annoncé hier sa remise en liberté provisoire. L'opposant indique avoir été libéré sous caution. Sa famille politique a confirmé sa libération dans une déclaration sur Twitter. Ses proches de Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle, placent sa détention dans le cadre d'un règlement des comptes politiques. Il a été arrêté le 24 janvier à Bunia et accusé d'outrage au chef de l'État après des déclarations faites à la presse lors du premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Il a qualifié l'année des gâchis alors que le peuple attendait une vraie alternance. L'opposant a affirmé ne pas avoir d'espoir pour le pays dirigé par une coalition avec une majorité des partisans de l'ancien président Joseph Kabila dans toutes les institutions. Le président Tshisekedi a promis d'œuvrer pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au cours de son mandat à la tête du pays.
En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a appelé hier les garants internationaux à plus de fermeté contre les groupes armés qui, selon lui, ne respectent pas les engagements de l'accord de paix de Khartoum signé il y a un an. Les violences ont diminué, mais les 2/3 du territoire échappent toujours au pouvoir central. Le président centrafricain parlait hier à Bangui lors d'une cérémonie à l'occasion du premier anniversaire de la signature de cet accord. Des représentants des 14 groupes armés concernés étaient présents jeudi à la cérémonie, à l'exception du FPRC, récemment impliqué dans des combats meurtriers à Bria dans le sud-est.
Au Burkina Faso, le producteur d'or canadien Semafo a annoncé hier la réouverture de sa mine d'or de Boungou, fermée en novembre après une attaque qui avait fait 38 morts. Bagessikoura.
Un hélicoptère pouvant transporter 10 employés à la fois a commencé à faire la navette entre la mine et Fada, ville à environ 200 km à l'est de Ouagadougou, a annoncé Semafo dans un communiqué. Dès que la construction d'une piste d'atterrissage sera terminée, les transferts se feront par avion, a précisé Semafo sans fournir d'échéancier. La société prévoit que l'extraction de l'or ne reprendra qu'au 4e trimestre, les stocks étant suffisants pour alimenter les installations pendant environ 10 mois. Elle souligne cependant que le gouvernement devra à court terme améliorer la sécurité sur la route. Le 6 novembre, des hommes armés non identifiés ont tendu une embuscade à un convoi de 5 véhicules escortés par des militaires et transportant des travailleurs de Boungou vers la mine. Cette attaque, qui a fait 38 morts, a été l'une des plus meurtrières des 5 dernières années dans le pays.
Les belligérants en Libye ont fait des progrès en vue d'un accord de cessez-le-feu durable, mais il reste encore quelques points de divergence. C'est ce qu'a indiqué hier à Genève l'émissaire spécial de l'ONU, Ghassan Salamé. Le point avec Nathalie Barge.
Des progrès ont été faits sur de nombreux sujets importants et nous avons devant nous des convergences dans plusieurs domaines, a indiqué Ghassan Salamé au 4e jour de tractation entre hauts responsables militaires des deux camps rivaux. Les belligérants sont d'accord pour que la commission militaire libyenne conjointe, réunie à Genève, soit impliquée dans le suivi d'un cessez-le-feu sous les auspices de l'ONU, a dit M. Salamé. Confirmée lors du sommet du 19 janvier à Berlin, cette commission doit définir les conditions d'un cessez-le-feu durable avec retrait des positions militaires. L'émissaire onusien a précisé qu'il restait à régler quelques divergences, ajoutant espérer qu'un accord sera possible pendant cette semaine de négociations. Des discussions sont aussi prévues sur le volet économique le 9 février au Caire et sur le volet politique à partir du 26 février à Genève. Dimanche et lundi se tient à Addis Abeba en Éthiopie le 33e sommet de l'Union africaine, lors duquel les dirigeants africains vont essayer d'avoir une position commune sur la crise en Libye.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président chinois Xi Jinping a assuré vendredi au téléphone à son homologue américain Donald Trump que son pays était entièrement confiant et capable de juguler l'épidémie à coronavirus, ont rapporté les médias publics. Au total, 31 161 personnes ont été contaminées en Chine continentale et 636 d'entre elles sont mortes. En dehors de la Chine, y compris les régions autonomes de Macao et de Hong Kong, plus de 240 cas de contaminations ont été confirmées dans une trentaine de pays et de territoires.
Au lendemain de son acquittement par le Sénat à l'issue de son procès en destitution, le président Donald Trump s'est déchaîné hier contre ses opposants qu'il a accusés d'être malhonnêtes et corrompus. Eric Manirakidza.
Ce n'est pas une conférence de presse, ce n'est pas un discours, a-t-il lancé d'entrée, précisant qu'il s'agit d'une célébration. Le président Donald Trump a exprimé son amertume avant de remercier sa famille, en particulier sa fille Ivanka et sa femme Melania, pour leur soutien. Depuis les salons de la Maison-Blanche, il a opté pour une tonalité de ses meetings de campagne. Une honte, un désastre, des conneries, des menteurs, des vicieux, des méchants, a-t-il martelé. New York Times, Washington Post, j'ai eu tant de titres fantastiques que s'est-il amusé. Le président Trump a aussi pris pour cible le sénateur républicain Mitt Romney, seul membre de son parti à avoir voté pour sa destitution. Si sa mise en accusation restera comme une tache indélébile sur son mandat, son procès a démontré qu'il pouvait compter sur un parti républicain qui fait bloc derrière lui. C'est un atout de taille face à des démocrates qui n'ont pas encore choisi leur candidat pour la présidentielle de novembre prochain.
Par ailleurs, le président américain a confirmé hier la mort de Qassem al-Rimi, fondateur et leader d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il a été tué au Yémen dans une attaque américaine au drone. Un des lieutenants d'Ayman al-Zawahiri, leader d'Al-Qaïda, a également été éliminé. On n'a pas précisé lequel. Selon la Maison-Blanche, le groupe de Qassem al-Rimi a commis des actes de violence indicibles contre des civils au Yémen et a cherché à mener et à inspiré de nombreuses attaques contre les États-Unis et leurs forces. Pour Washington, la mort de Qassem al-Rimi affaiblit davantage Al-Qaïda dans la péninsule arabique et le mouvement mondial Al-Qaïda et, a estimé la Maison-Blanche, cela nous rapproche de l'élimination des menaces que ces groupes posent à notre sécurité nationale.
Par ailleurs, Jared Kushner, gendre du président Trump et architecte de son plan de paix pour le Moyen-Orient, a accusé le président palestinien Mahmoud Abbas d'avoir une responsabilité dans les violences de ces derniers jours en Israël. Selon lui, M. Abbas a appelé à répondre par des journées de colère avant même d'avoir vu ce plan de paix dévoilé la semaine dernière. Une attaque jeudi à la voiture Bélier à Jérusalem a blessé une dizaine de soldats israéliens et des affrontements en Cisjordanie ont fait 3 morts.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La compagnie aérienne nationale sud-africaine, au bord de la faillite, a annoncé ce jeudi la fermeture définitive de plusieurs lignes internationales et de la quasi-totalité de ses liaisons nationales afin de réduire ses coûts et de renouer avec la rentabilité. À l'intérieur, la société n'assurera plus que la liaison Johannesburg-Le Cap. Les passagers affectés par la fermeture de liaisons internationales seront intégralement remboursés. Les autres se verront proposer des vols sur une autre compagnie. Par ailleurs, South Africa Airways, qui emploie 5200 personnes, juge nécessaire le licenciement de certains salariés. Le président zambien Lungu appelle à une intensification des échanges et des investissements entre Lusaka et Abu Dhabi par la mise en place des plateformes durables qui faciliteront ce projet. Les exportations de la Zambie vers les Émirats arabes unis étaient inférieures à 3 millions de dollars en 2018. Pour terminer cette minute éco, la Banque mondiale appelle les pays pauvres et en développement, les plus concernés par le surpoids et l'obésité, à taxer les aliments mauvais pour la santé qui sont trop gras, trop sucrés ou trop salés. L'obésité a de graves conséquences sur les économies des pays et sur le capital humain car elle réduit la productivité et l'espérance de vie, augmente les handicaps et les coûts de soins de santé. Elle cause aussi l'absentéisme au travail et les mises à la retraite précoces. Dans les 15 ans à venir, les coûts liés au surpoids devraient atteindre 7 000 milliards de dollars dans les pays en développement.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Kalusha Boalia, de nouveau candidat à la présidence de la Fédération zambienne de football.
Oui, la légende zambienne fera face à Andrew Kamanga, président sortant et candidat à sa propre succession. Joueur africain de l'année en 1988, Kalusha Boalia a occupé des postes importants à la CAF ainsi qu'à la FIFA. L'ancien joueur du PSV Eindhoven a été blanchi par la FIFA dans une affaire de corruption l'année dernière. S'il est élu, ce sera un retour aux affaires pour Boalia, qui a déjà occupé le poste pendant 4 ans. Il était président quand les Chipolopolo ont remporté la CAN 2012 au Gabon. L'élection est prévue le 28 mars.
Le Maroc rejoint l'Égypte en finale de la CAN Futsal.
Le Maroc a décroché le second billet après son succès facile 4-0 sur l'Angola. Le Royaume chérifien va ainsi défendre son trophée face à l'Égypte qui a décroché son ticket. Un peu plus tôt, grâce à sa victoire à 4-1 devant la Libye, cette finale est un remake de celle de 2016. Pour l'heure, Marocains et Égyptiens sont assurés de disputer la Coupe du Monde de futsal en Lituanie. Pour connaître le troisième qualifié africain pour le mondial, il faudra attendre le match pour la troisième place entre la Libye et l'Angola. Cette rencontre ainsi que la finale auront lieu ce soir.
Le Rwanda se prépare pour le CHAN 2020.
La Fédération rwandaise de football a dévoilé l'identité de deux adversaires des Amavubi pour des matchs amicaux. C'est le Cameroun, pays hôte de la compétition, qui fera face au Rwanda lors d'un match test le 24 février à Yaoundé. La seconde rencontre opposera les Amavubi au Diable Rouge du Congo à Kigali le 28 février. Le tirage au sort pour la phase finale est prévu le 17 de ce mois. Le CHAN se tiendra du 4 au 25 avril prochain.
Roland Schumann suspendu pour dopage.
Oui, le champion sud-africain de natation a été suspendu 1 an pour dopage. L'annonce a été faite par la Fédération internationale de natation. Roland Schumann, 39 ans, champion olympique du 4x100 mètres relais en 2004 à Athènes et triple champion du monde, a été contrôlé positif en mai 2019. Le nageur qui s'entraînait pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo 2020 a été suspendu jusqu'au 17 mai prochain. Le Sud-Africain peut faire appel de sa suspension devant le tribunal arbitral du sport. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Quelques grands chocs hier soir à l'est et à l'ouest. À l'est d'abord, Milwaukee et Philadelphie. Le match s'est terminé par le score de 112 à 101. Et à l'ouest, eh bien, les Los Angeles Lakers affrontaient les Houston Rockets. Ce match se poursuit et nous aurons le résultat à 7h temps universel dans notre seconde édition. Parmi les autres matchs, New York et Orlando 105 à 103, la Nouvelle-Orléans et Chicago 125 à 119, Portland et San Antonio 125 à 117.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, menace sur la sécurité des élections législatives et municipales en zone anglophone. Les séparatistes ont mis à exécution un projet de trouble de la campagne électorale pour le double scrutin du 9 février dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Une caravane de campagne du RDPC, le parti au pouvoir, a été attaquée le week-end dernier dans la région du Sud-Ouest. Des hommes se réclamant de l'une des branches armées des séparatistes anglophones ont réclamé cette attaque. Lors de la première semaine de campagne électorale, un autre groupe armé a incendié à Tombel, dans la région du Sud-Ouest, une antenne de Election Cameroun, l'organe électoral. Mais le gouvernement n'entend pas céder à la panique. Paul Attangandji, ministre de l'administration territoriale.
Les élections se tiennent donc partout. C'est d'abord la première instruction présidentielle. Il y aura l'encadrement sécuritaire. Et si cet encadrement sécuritaire mérite d'être renforcé, il sera renforcé. Autre instruction du chef de l'État, encadrer les camps dans le processus. C'est un défi important.
En janvier dernier, plus de 700 gendarmes et militaires ont été déployés en renfort pour sécuriser le processus électoral dans les deux régions anglophones. Mais sur des vidéos de propagande diffusées sur Facebook, des personnes présentées comme des partisans du parti au pouvoir ont été contraintes à se laver avec de la poussière sous la menace des séparatistes. Il s'agit, selon Adolphe Nelly Lafrique, gouverneur de la région du Nord-Ouest, des actes isolés dans quelques localités.
Toutes les mesures ont été prises pour, premièrement, sécuriser ces points chauds. Dans la perspective des élections, les autorités travaillent en concertation avec les populations, les chefs traditionnels, certaines élites de bonne volonté pour amener une situation normale dans ces points chauds.
Mais les velléités des leaders séparatistes contre le double scrutin du 9 février prochain font peser le risque d'un faible taux de participation. Bernard Okala-Bilahi est gouverneur du Sud-Ouest. Il pense que les populations de cette région vont cette fois-ci participer massivement au vote.
L'état des lieux dans la région du Sud-Ouest est au retour à la normale. Les populations qui avaient déserté les localités, leurs villages sont en train de rentrer parce qu'elles ont pris conscience d'un certain nombre de faits qui étaient en leur défaveur. Elles ont notamment compris que tout ce que les leaders sécessionnistes et les terroristes sur le terrain leur disaient n'était pas pour construire leur avenir.
Lors de l'élection présidentielle de 2018, malgré les mesures de sécurité prises par Yaoundé, le taux de participation dans le Nord-Ouest était de 5,36% et 15,94% dans le Sud-Ouest. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
République centrafricaine, 6 février 2019, 6 février 2020, un an déjà pour l'accord de paix et de la réconciliation signé entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés après des négociations à Khartoum au Soudan. Cet anniversaire a été marqué ce jeudi par une grande rencontre de différents acteurs à Bangui, la capitale centrafricaine. Qu'est-ce qui a changé depuis la signature de cet accord? De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
L'accord signé le 6 février 2019 prévoit d'une part un gouvernement inclusif, la dissolution des groupes armés, la réinsertion de leurs membres dans les corps en uniforme et la vie civile, d'autre part le désarmement des forces négatives. Depuis sa signature, au moins 70% des cas de violation ont été documentés par la MINUSCA et les principaux auteurs sont les groupes armés. Dr Arnaud Yaliki, enseignant-chercheur à l'université de Bangui, a écrit un ouvrage sur cet accord.
D'une manière globale, il y a des avancées, mais beaucoup de défis restent à relever. relevés. Sur le plan pratique, les défis qui restent à être relevés, c'est que il y a certains acteurs de cet accord qui ne respectent pas leurs engagements.
Pour l'homme de la rue, un an après, des progrès ont été enregistrés dans certains domaines, mais il reste encore beaucoup à faire.
On assistait à des violences, on assistait à beaucoup d'actes que les Centrafricains déploraient. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a eu une diminution de la violence et tout cela à cause de l'accord.
C'est grâce à cet accord aujourd'hui que les deux anciens présidents sont revenus au pays.
Cet accord-là a enregistré beaucoup des irrégularités. C'est une bonne stratégie que le gouvernement avait mis en place parce que ça les contraint à ne pas faire des exactions comme auparavant.
Se félicitant des progrès réalisés, le gouvernement insiste sur le respect des clauses de cet accord politique. Ange-Maxime Kazaghi, porte-parole du gouvernement.
Il faut donc que chacun, au moment où nous faisons le point sur cet accord, fasse à ses engagements, soit conséquent avec sa signature, afin que ensemble, en tout cas pour ceux qui réellement souhaitent la paix, la réconciliation nationale dans ce pays, que nous allions vers celle-là.
Dans un message vidéo, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, note lui aussi des progrès réels, mais il met en garde contre la poursuite des violences.
Mais malgré ces progrès encourageants, je reste préoccupé par certains retards dans la mise en œuvre et je condamne fermement la poursuite des violences. J'appelle donc tous les signataires à respecter leurs engagements.
L'Union africaine et la CEAC se félicitent des efforts entrepris par les parties signataires dans la mise en œuvre de l'accord et réaffirment leur soutien à cette entente politique. De leur côté, les États-Unis d'Amérique réaffirment également leur soutien à l'accord. Je tiens à rassurer le peuple centrafricain que les États-Unis seront toujours aux côtés de ceux qui choisissent la paix, a déclaré Mme Lucie Tamlin, ambassadrice américaine en Centrafrique. Plusieurs principaux chefs des groupes armés sont dans la capitale à l'occasion de la célébration du l'an 1 de cet accord de paix. Le groupe de travail de la société civile ne voit pas d'un bon œil cette présence. Paul Cresson Beninga en est le porte-parole.
Ali Daras venait de massacrer et on nous dit on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve, mais pour l'amener et fêter l'an 1 de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, on est allé le chercher et il a été transporté par le biais d'un avion pour atterrir à Bangui. Ça montre combien de fois les gens ne sont pas serrés dans ce pays.
Le tissu sécuritaire dégradé en raison de la crise qui a frappé le pays depuis 2012 a contraint le pouvoir de Bangui à conclure le 6 février 2019 cet accord de paix avec 14 groupes armés après d'intenses négociations à Khartoum au Soudan. Freeman Sipila, Bangui pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Burkina Faso, plus de 2300 écoles ont fermé depuis le début des attaques en janvier 2016. Ces chiffres ont été annoncés hier par le gouvernement burkinabé qui précise que ces dernières semaines, 36 écoles ont fermé après l'attaque de Lamdamol dans le Sahel qui a fait 18 morts. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Que devient le secteur de l'éducation en cette situation d'urgence? C'est à cette question qu'a répondu le ministre de l'Éducation hier jeudi à Ouagadougou. Et les chiffres annoncés sont alarmants.
À la date du 30 janvier 2020, nous enregistrons 2369 établissements fermés, affectant 325 245 élèves et 10 048 enseignants, avec 623 établissements endommagés.
Stanislas Waro, ministre de l'Éducation.
Cependant, il faut signaler que suite à l'attaque de Lamdamol, il y a quelques jours, on enregistre à la date du 3 février 2020, 36 écoles primaires fermées dans la commune de Bani. Les milliers de personnes déplacées internes, dont de nombreux élèves, ont occupé des salles de classe, occasionnant parfois leur détérioration et nécessitant leur réhabilitation.
Tous les secteurs sont touchés, mais celui de l'éducation est éprouvé, selon le gouvernement. Au moins 6 régions connaissent les fermetures d'écoles. Il faut accompagner les forces de défense et de sécurité, selon le ministre de l'Éducation.
Le plus important, c'est qu'on travaille à accompagner les forces de défense et de sécurité à faire en sorte que ces zones-là soient suffisamment pacifiées de façon à nous permettre de revenir, dérouler notre programme parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas vous voir là-bas. Donc que ce soit des personnes du village ou pas, ils n'en veulent pas. Donc on n'a pas intérêt à travailler, à ne pas protéger donc, nos compétences, à ne pas protéger nos populations. Donc nous, c'est surtout avec les forces de défense que nous travaillons. Et ce sont elles qui nous disent à quel endroit on peut repartir. Et dès que c'est dit, nous discutons avec nos agents pour repartir et rouvrir nos écoles.
Le gouvernement dit qu'il travaille à gérer cette situation.
À la même date du 30 janvier 2020, la réouverture de 824 établissements scolaires.
Stanislas Waro.
Il faut noter également la réinscription de plus de 20 000 élèves des établissements fermés ou élèves déplacés internes dans des établissements d'accueil. Ça, ce sont des chiffres d'élèves que nous avons recensés. La réhabilitation des établissements endommagés suite à leur occupation par les personnes déplacées internes, la réalisation d'infrastructures pour accueillir les élèves déplacés et des initiatives locales d'accueil et d'inscription des élèves des personnes déplacées internes.
Depuis le début des attaques terroristes en janvier 2016, 10 enseignants ont été tués selon les autorités. Le 4 janvier dernier, 14 personnes ont été tuées, dont 7 élèves sur l'axe Toini-Tougan dans la boucle du Moon. Les attaques ont fait 480 morts civils et militaires dans la seule année 2019 selon le gouvernement burkinabé. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
L'épidémie de coronavirus, au total 31 161 personnes ont été contaminées en Chine continentale et 636 d'entre elles sont mortes. Et en dehors de la Chine, y compris les régions autonomes de Macao et de Hong Kong, plus de 240 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, est en quarantaine depuis 2 semaines. Près de 5000 étudiants africains se trouvent dans la région. Claire Morin-Gibourg a joint l'étudiant ivoirien Jean-David Coyer, qui habite Wuhan depuis 7 ans. Il raconte son quotidien.
L'atmosphère à Wuhan actuellement est un peu triste, je dirais. Bon, moi qui vis dans cette ville depuis maintenant plus de 7 ans, la ville est un peu méconnaissable, les rues sont désertes et c'est même la peur au ventre pour ceux qui même sortent. Parce que, par exemple, là, je me rappelle, j'étais allé à la pharmacie il y a cela 2 jours. La queue pour acheter un médicament, il y avait environ 2 mètres entre chaque personne. Donc c'est un peu la peur au ventre même pour ceux qui s'hasardent à sortir pour se ravitailler ou acheter des médicaments.
Les sorties sont donc possibles ?
On sort quand c'est vraiment nécessaire. Les consignes déjà, c'est de minimiser les déplacements. Pour moi, qui vis en dehors du campus universitaire, j'ai un peu plus de chance. Mais par exemple, mes camarades du campus, eux, c'est quarantaine totale. Ils ne peuvent pas sortir de l'université.
Et est-ce que les magasins sont encore ouverts ? Comment vous faites pour vous acheter à manger, par exemple ?
Les magasins sont pas totalement ouverts parce que le virus a coïncidé avec le nouvel an chinois. Et le nouvel an chinois, de base, les magasins sont fermés. Il n'y a que les grandes surfaces qui sont ouvertes. Et moi, de mon côté, je suis sorti que 2 fois en 2 semaines pour me ravitailler 2 fois, en fait. Là, je fais des achats vraiment pour tenir longtemps et voilà.
La plupart des banques sont fermées. Comment vous faites pour avoir un peu d'argent?
Moi, de mon côté, quand je peux dire que je suis un peu privilégié parce que je suis étudiant boursier de l'État chinois. Et donc, nos bourses sont virées directement sur nos comptes. Et bon, avec le porte-monnaie électronique, c'est un peu facile d'avoir de l'argent sur son portable directement. Mais sinon, les banques sont fermées, les services, mais pas les ATM.
Qu'est-ce qui est le plus dur, le plus difficile pour vous et les autres étudiants aujourd'hui?
Le plus dur actuellement, c'est de trouver des masques chirurgicaux ou des masques, je crois le nom, c'est N95. Parce que la quarantaine a été un peu brusque. Les gens ne se sont pas préparés et d'un moment à un autre, il fallait porter des masques obligatoirement. Parce que si tu n'as pas de masque, tu ne peux pas rentrer dans les surfaces. C'est illégal de se promener sans masque. Et donc, le problème, c'est de n'avoir pas eu de masque avant la quarantaine. Donc là, ça fait que tu ne peux même pas sortir de chez toi pour en chercher. Donc, c'est vraiment le plus gros problème auquel sont confrontés la plupart des gens ici qui cherchent désespérément des masques. Et la population est nombreuse ici, donc les gens se sont empressés d'acheter et de faire des stocks. Et donc, il y a vraiment aussi une pénurie de masques dans plusieurs pharmacies.
Jean-David Coyer, étudiant ivoirien en Master 2, Information et Communication. Il était joint à Wuhan.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Carl Starling. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.